Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le Club des Idées du Grain. Ce soir, acte 2, bis repetita. Le temps politique se compte donc désormais en actes. Qui a eu l'idée de les qualifier ainsi? En tout cas, la formule a été vite adoptée. Aux actes des gilets jaunes, combien en tout on ne sait plus, il faut désormais ajouter les actes du quinquennat. Plus facile à dénombrer, le deuxième vient seulement de commencer. Et il a débuté mardi à l'Assemblée nationale avec le discours de politique générale d'Édouard Philippe. À ceux qui auraient raté un épisode, précisons que ce discours ne suivait en rien un remaniement. Au gouvernement, on garde les mêmes et on recommence. Mais il s'agissait d'acter la fin d'une séquence de plusieurs mois rythmée par la contestation sociale, le grand débat national et les européennes. Alors dans la liste de ses envies de réforme, le Premier ministre n'a oublié personne, à commencer par celle qui se sentait, dit-on, délaissée, son aile gauche. Priorité à l'environnement avec une grande loi à venir sur le gaspillage, extension de la PMA à toutes les femmes, lutte contre les contrats courts, voilà pour le coucou à la gauche. Sans oublier de faire des signes sur sa droite en promettant davantage de sécurité, de baisse d'impôts et un débat sur l'immigration. Une approche d'équilibriste qui rappelle évidemment le « en même temps » constitutif de la Macronie. C'est d'ailleurs dans le programme de 2017 qu'Édouard Philippe a pioché l'essentiel de ses annonces. Alors, acte 2, bis repetita, c'est la question du soir, en compagnie de trois des membres de notre club des idées. Géraldine Mühlmann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris 2. Laurent Bigorgne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. Et Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouve tous les samedis à 12h45 sur France Culture. Pour la suite dans les idées, vous dirigez le site AOC, analyse, opinion, critique. Alors, ma première question, elle va porter sur le principe de ce discours de politique générale. Avant d'aller sur le contenu, est-ce que vous considérez que c'était pertinent de faire un tel discours à ce moment du quinquennat? C'est-à-dire, on est à moins de la moitié du mandat d'Emmanuel Macron, sachant que ça suit cette séquence des élections européennes qui n'ont pas vocation, a priori, à réorienter la politique nationale. Laurent Bigorgne.
Ça ne suit pas que les élections européennes. Ça suit aussi tout un processus au terme duquel semble-t-il exécutif étalé, qui était celui du grand débat. Moi, je trouve que c'est le droit du gouvernement d'interpeller d'une certaine façon le Parlement. Il n'y en a pas eu un seul de discours de politique générale. D'ailleurs, il y en a eu deux. Et ce qui est très saisissant, c'est que ce ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a eu un mercredi à l'Assemblée nationale et puis il y en a eu un jeudi au Sénat. Et je pense qu'en même temps, on doit même pouvoir se dialectiser dans l'effet d'écho entre les deux discours parce qu'on ne s'y est pas dit exactement les mêmes choses. On a beaucoup plus parlé de décentralisation. Et donc on a préparé le terrain à d'autres choses au Sénat. C'était un vrai discours de politique, à mon avis, plus que de politique générale.
Et qui était vraiment adapté au public, du coup, des élus locaux que sont les sénateurs.
Moi, je considère que, surtout après la séquence qu'on vient de vivre, j'ai déjà été trop grand, donc j'en terminerai, mais la parole du gouvernement, le fait qu'elle soit débattue à l'Assemblée, et qu'elle soit débattue au Sénat, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas nécessairement une chose qui va changer le cours du quinquennat, c'est même tout le contraire, puisqu'on nous parle de constance et de cohérence, mais c'est plutôt une bonne chose, oui.
Géraldine Mühlmann.
Je pense que du point de vue du pouvoir, la partition est bonne, se joue bien depuis ce que le canard enchaîné a appelé la défaite victorieuse des élections européennes. Je dois dire que je suis même surprise, mais vraiment, je veux dire, ils se sont incroyablement bien récupérés après un moment extrêmement difficile, après des élections dont le résultat peut faire réfléchir dans de multiples directions. La crise de la droite aidant, et aussi, je pense, une réflexion sur, non pas sur l'autocritique elle-même, mais sur la mise en spectacle de l'autocritique, puisque c'est ça le pouvoir, et il n'y a pas là d'ironie de ma part, c'est normal qu'on réfléchisse à la mise en spectacle, et je pense que le président de la République, notamment, essaye de trouver les moyens d'un mea culpa qui s'entende sur le plan de l'attitude. J'ai trop fonctionné comme un... Nous avons fonctionné comme des sachants par rapport à ceux qui subissaient, il faut que j'évolue, etc. Il l'avait déjà dit, hein, cela dit. Mais autrement, c'était difficile à entendre, à mettre en spectacle, à se faire entendre et voir. Et là, je pense qu'il, sur le plan de la communication politique, comme on dit dans la science politique, ma discipline, oui, ils sont dans un bon moment.
Voilà, cette forme de sobriété, elle était aussi présente dans le discours de la méthode d'Édouard Philippe. Il faut préciser, les propos d'Emmanuel Macron, ils précédaient ce discours de politique générale qui, évidemment, est fait et formulé par le Premier ministre. Sur la méthode, justement, Sylvain Bourmeau.
Moi, je me plains pas du fait qu'il y ait un discours politique général. Je pense que c'est toujours bon qu'il y ait des discours de politique généraux. Pourquoi n'en faire que deux fois par quinquennat ou... Non, enfin, je pense qu'on pourrait même imaginer que ce soit une fois par an. Alors, c'est vrai qu'il y a une séquence qui est marquée par ces élections européennes, par cette crise des gilets jaunes transformée ou à laquelle a été répondu par le grand débat. Donc, je suis pas du tout choqué ou je trouve pas bizarre que je trouve pas artificiel en quelque sorte qu'il ait été pris l'initiative de prononcer ce discours. D'autant que on est quand même du point de vue de la situation politique, de la représentation politique, je dirais même de la représentation au sens de la représentation qu'on peut se faire de l'espace politique aujourd'hui dans une forme de brouillard, de flou. Les choses ont quand même changé rapidement, elles ont été disruptées, pour reprendre un vocabulaire de la nouvelle économie qui est souvent utilisé par cette Startup Nation. Donc, et je crois que beaucoup d'électeurs ont du mal à se représenter la politique. Et au fond, on a là, et je pense qu'on va en parler ce soir, des affrontements de représentation, d'images. À quoi a-t-on affaire ? Vous avez insisté en ouvrant l'émission, Hervé, sur l'exercice d'équilibriste du Premier ministre, reprenant cette formule et en même temps, essayant de jouer à gauche, à droite. Et je pense que cette vision des choses que force le gouvernement, qui a été forcé aussi par une tribune dans le JDD de Marlène Schiappa notamment, elle est éminemment contestable et elle est de plus en plus contestée parce qu'elle ne correspond pas, par exemple, à la réalité du scrutin de ces élections européennes. Ce qui s'est passé, mais on va avoir l'occasion d'en parler, j'imagine, nous apprend tout autre chose sur la réalité de la politique du pays aujourd'hui.
Juste par rapport à cette tribune de Marlène Schiappa dans le journal du dimanche, elle appelait, enfin elle n'était pas seule hein, d'ailleurs, mais... les personnes, on va dire, de bonne volonté à rejoindre la majorité en motif qu'il fallait servir son pays.
C'est toujours la même chose, c'est une tentative d'institutionnalisation en politique de la situation du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est ce clivage entre Emmanuel Macron et le Front National, le Rassemblement National, qu'il s'agirait de sanctuariser et désormais, la politique devrait se penser comme ça. Et donc, tous ceux qui ne sont pas avec Emmanuel Macron sont les alliés objectifs du Front National. Et c'est ça qui, évidemment, est très contestable et qu'on ne retrouve pas dans les urnes.
Est-ce que vous avez vu, vous, ce processus de sanctuarisation, cette volonté de sanctuarisation, Laurent Bigorgne, à travers cette séquence et à travers ce qu'a dit le Premier ministre ?
Qu'un gouvernement soit très tactique, c'est normal. Hein. On serait à leur place, ils ont un avantage, ils cherchent à l'exploiter. Je pense que, néanmoins, les choses sont quand même peu à peu en train de se clarifier et les faits sont têtus. La gauche est extraordinairement perdue. Elle manque de polarisation, elle manque de capacité à attirer, elle manque de leadership. Les tentatives de regroupement sur la gauche de la gauche n'ont pas fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'elles ne fonctionneront pas, mais en tout cas, pour l'heure, c'est un échec. Et ce qui est très frappant, et il faut quand même regarder les choses d'un peu près et dans la réalité, c'est l'échec de la droite. Et quand je dis échec, je pourrais être moins pudique. C'est une déroute historique qui fait que la droite aujourd'hui de gouvernement et la gauche du gouvernement sont au même niveau. Donc, et ça, c'est pas Macron qui l'a créé tout seul. Je veux dire, personne d'entre nous ne pouvait sérieusement imaginer, au vu des sondages qui nous étaient donnés, qu'un candidat de la droite de gouvernement ferait moins de la moitié du score de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, c'est pas seulement un gouvernement, me semble-t-il, qui cherche tactiquement à faire les choses. Il y a un mouvement de fond d'opinion qui va jusqu'au bout du dégagisme et qui est en train de dire à des forces politiques qui ont structuré la vie politique française depuis très longtemps, depuis la Ve République et ses débuts de 58, le PS 71, et puis la refondation plus tard de la droite de gouvernement dans une seule organisation, mais qui a déjà éclaté depuis pas mal de temps, on est en train d'assister à la clarification d'un jeu où effectivement, Sylvain a raison, il reste, j'allais dire, des mômes de force autour du Rassemblement National aujourd'hui, autour d'En Marche, et puis pas grand-chose.
Donc c'est une façon de prendre acte d'une recomposition de l'opinion et ouais, pas seulement
Mais c'est pas seulement le gouvernement qui crée ça. C'est aussi l'attrition des forces politiques traditionnelles. Et ça, c'est elle-même qui l'organise, ou qui justement ne l'organise pas.
Géraldine Munemann.
Je pense surtout que... pour des raisons complexes, qui ne tiennent pas que à En Marche d'ailleurs, qui tiennent aussi à ce qui s'est passé à droite, c'était le moment, après, c'est devenu le moment après ces européennes, pour essayer d'effacer quelques traumatismes. Et donc, ils essayent. Et d'ailleurs, je pense que ça va en partie fonctionner, mais jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. C'est la politique. Mais j'en vois trois des traumatismes. Le premier, c'est l'attitude générale, le côté un peu arrogant, technocratique, qui était paradoxal, puisqu'on avait l'impression d'avoir un nouveau monde, genre de la société civile, etc. etc. Et contre les technostructures. Et finalement, on avait des technocrates qui parlaient un peu comme des technocrates, etc. Donc, c'était un traumatisme des deux premières années. Le deuxième.
Erreur fondamentale, d'ailleurs. Dit Emmanuel Macron à ce sujet.
Bon, en tout cas, le problème d'effacer un trauma du début, c'est que ça peut ne pas marcher, ça peut être faux aussi, ça peut être illusoire. Mais bon, le politique, il doit essayer d'effacer ce qui fait mal, ce qui s'est vu, qui n'aurait pas dû se voir, que ce soit sincère ou non, c'est pas notre problème. Deuxième traumatisme fort, Nicolas Hulot. Excusez-moi, mais ça a été un moment très fort, parce que la démission de Nicolas Hulot, aussi bien dans la forme que sur le fond, donnait vraiment l'impression qu'il n'y avait pas de conciliation possible entre des idéaux écologistes et En Marche, et on fait tout pour effacer cela. Vous voyez bien, on fait tout pour effacer cela, et longtemps on s'est dit ça ne marchera pas. Là, on se dit tiens, une nouvelle séquence, peut-être que ce traumatisme-là va être aussi effacé. Et le troisième traumatisme, c'est le fait que c'est vu pendant les deux premières années, et surtout pendant la deuxième année, que le « en même temps » était très forcé. Et qu'en vérité, nous avions un pouvoir de droite libérale au pouvoir qui ne voulait pas être trop brutal, certes, mais qui n'était pas équilibré de la même manière sur ses deux jambes. Mais il ne fallait pas que ça se voie trop. Le « en même temps » était quand même précieux pour récupérer un électorat hollandiste, etc. Donc c'était très embêtant. C'était un traumatisme aussi, le fait que ça se voit, que ça n'était pas... aussi sincèrement cela que cela en donnait l'impression. Et donc, je pense qu'en ce moment, on essaye de l'effacer et que ça prend un petit peu. On a l'impression que par l'autocritique, par un tas de choses, de signaux, qu'on va recommencer sur de bonnes bases en même temps. Après, toute la question de savoir ce qu'on croit. Mais moi, je parle du point de vue du pouvoir politique. C'est l'occasion d'effacer un petit peu ces trois traumatismes.
Alors, si vous voulez bien, examinons justement une des réponses à ces trois traumatismes que vous évoquez, Géraldine Mühlmann. Le deuxième est la question environnementale. Les questions environnementales, pour la première fois, semble-t-il, un discours de politique générale commence avec le programme sur l'environnement, un certain nombre de projets de loi qui sont en cours ou annoncés sur l'énergie, sur la mobilité. Un grand projet de loi qui fait partie des priorités de la rentrée prochaine autour du gaspillage. Il y a évidemment eu la démission de Nicolas Hulot et puis le score important des écologistes aux européennes, pas seulement de la liste menée par Yannick Jadot, mais il y avait aussi le parti animaliste et puis la liste urgence écologique. On fait des scores certes faibles, mais si on les ajoute, on est autour de 18%. Édouard Philippe a expliqué dans son discours qu'il avait mis du temps à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Sylvain Bourmeau, est-ce qu'on peut dire que là, il y a quand même une inflexion notable de la politique du gouvernement sur ces questions?
Non, pas plus qu'il y avait au moment où on choisit de nommer Nicolas Hulot parce que l'écologie, c'est important. Donc ça, ce sont des discours. Que peut-on en dire aujourd'hui? Pas grand-chose. Il faut attendre de voir si les politiques publiques s'en trouvent infléchies ou pas. Donc ça va se mesurer à l'aune d'un certain nombre de décisions qui vont être prises sur tel ou tel dossier qui touche la question environnementale. Là, on a des grandes déclarations. Oui, c'est important.
Philippe parle de nouveaux modèles économiques à mettre en place.
Mais tout ça, ça relève de ce que vous avez décrit comme cet exercice d'équilibrisme. Et moi, je suis frappé, je voudrais revenir là-dessus, par le décalage total qu'il y a entre cette image qu'on cherche à nous donner et qui est aujourd'hui, qui continue, et je ne comprends pas pourquoi elle est à ce point-là reprise par beaucoup d'analystes, de commentateurs, de journalistes politiques, et puis la façon dont perçoivent la réalité politique française beaucoup d'électeurs. Je veux dire par là que les électeurs de droite ne s'y sont pas trompés aux élections européennes. Ils ont voté pour la liste de Nathalie Loiseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce parti est le parti leader de la droite. Mais les choses sont claires. À un moment, il faut se rappeler qu'on est dans un régime très présidentialisé, mais qui est un régime parlementaire. Donc il y a un Premier ministre qui joue un rôle important. D'ailleurs, il y a ce discours de politique générale, c'est lui qui le tient. Emmanuel Macron arrive à l'Élysée. Il nomme un Premier ministre. Il choisit quelqu'un qui vient du parti de droite. Il nomme à Bercy un ministre des Finances de droite. Ça fait des mois qu'un certain nombre de gens progressivement ont réalisé, en regardant les politiques qui sont menées, que c'était des politiques de droite. les électeurs ne s'y sont pas trompés. Ceux qui ne s'y trompent pas maintenant, ce sont tous les élus locaux qui, en vue des municipales qui se préparent, quittent les Républicains pour rejoindre la République en marche. On le voit à Paris, on le voit partout. Donc en fait, les seuls qui continuent à croire à ce conte de fées du et en même temps, ce sont les journalistes politiques. Les oui. électeurs et les élus, eux, n'y croient plus.
Oui, mais ils croient ces signes que j'évoquais, et vous avez raison, on n'est pas obligé d'y croire. Moi, je les décrivais seulement. Mais il y a quand même des gens qui vont y croire, je pense, mais ils risquent de déchanter très vite. Là, je suis d'accord.
Il y a encore quelques électeurs qui y croient, on est d'accord, mais progressivement, quand même, tout ça se déchire.
Oui, parce que Sylvain Bourbon, si c'était si clair, les électeurs de gauche auraient dû porter leur voix sur les candidats de gauche. Or, quand on fait l'addition,
c'est ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait de façon totalement fragmentée.
Oui, mais même quand on fait l'addition, on peut pas dire que la gauche soit dans très bon état aujourd'hui en France. On est autour de 30%.
Non, mais la bonne nouvelle pour la gauche de ces élections, c'est que finalement, elle est en meilleur état que la droite. Classique, si on entend par là, les Républicains.
Ce qui est une illusion d'optique,
puisque la vraie droite, c'est plutôt En Marche. Donc, je ne suis pas en train de dire... Je pense que la France est majoritairement un pays à droite aujourd'hui, mais que ses voix de droite se portent sur Emmanuel Macron et son parti, et que la gauche, effectivement, vous avez raison, Hervé, est faible. Mais pour autant, elle est davantage dans une situation d'opposition à Emmanuel Macron que ne l'est la droite des Républicains.
Il n'y a rien pour la gauche aujourd'hui, du côté de la majorité, Laurent Bigorgne?
J'aimerais d'abord revenir un instant sur la question écologique pour dire que, pour le coup,
je suis
en désaccord avec ce que vient de dire Sylvain, parce qu'on mélange un peu tout sur les computes arithmétiques. Hein. Mais sur l'écologie, ce qui est très fort, c'est que ce gouvernement a échoué. Alors, il peut essayer de recommencer, mais la seule façon de changer les comportements, c'est d'avoir un prix du carbone. Hein. Et donc de décider qu'à un moment ou un autre, on fait la pédagogie de ce que ça veut dire que d'avoir un prix du carbone. Dès lors qu'on n'a pas réussi à le faire... qu'on a même frôlé la sortie de route, voire qu'on est sorti de la route, et qu'on n'est pas prêt à réinstaller ce débat, qui est celui de toutes les grandes social-démocraties d'Europe du Nord, ou en tout cas de tous les pays qui réalisent la transition, on est tanké pour très longtemps. Alors, on peut faire du cosmétique sur le plastique, le recyclage. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ça n'est pas un cœur du sujet.
Donc vous n'y croyez pas davantage que Sylvain Bourmeau, et même les aveux de conversion du Premier ministre.
Mais je crois tout à fait à la sincérité de tous ceux qui disent qu'aujourd'hui, ils pensent que la question climatique, environnementale est essentielle. Ensuite, les mots d'amour, c'est toujours formidable. Ce qui compte à un moment ou à un autre, c'est de mettre en place des politiques publiques. Des preuves d'amour, c'est quand on est capable de dire, de porter la pédagogie, de dire je me suis trompé, et pourtant, la question de la taxation du carbone sera centrale dans les années à venir, voilà pourquoi il faut y aller, et effectivement faire, comme l'a souligné l'économiste Jean-Pierre Ferry, avec honnêteté intellectuelle et rigueur. Ce qui n'a pas été le cas. Donc ça, c'est pour dire un peu les choses, et encore une fois, les uns et les autres peuvent se dire écologistes. La réalité, c'est les actes qui sont ancrés derrière, et les pratiques et les politiques publiques qu'on fait évoluer. Maintenant, sur la droite et la gauche... Pourquoi je dis que tout ça est flou? D'abord, le système, il est en train de muter. Il n'a pas achevé sa mutation, puisque à la dernière présidentielle, la droite, rappelez-vous, avait assuré plutôt une belle résilience compte tenu du contexte, et la gauche était déjà de gouvernement, en grande déshérence. Là, on est d'une certaine façon, j'aime pas cette rhétorique, mais sur un acte 2, ou acte suivant, où on voit que ce qu'avait théorisé le candidat Macron, d'une certaine façon, se réalise. Pas parce qu'il a théorisé que ça se réalise, c'est dû à quantité de causes. Et donc il faut bien reconnaître que, oui, aujourd'hui, un coup, en réalité, En Marche penche à droite, un coup, ça penche à gauche. Et ce va-et-vient, il va être constant, et la question est de savoir s'il pourra assurer une stabilité à cette famille politique, qui devient d'une certaine façon très centrale et attrape tout, ou si à un moment ou à un autre, il y aura une cassure, ou si à un moment ou à un autre, il y aura une désunion.
Est-ce que dans ce qu'a dit Édouard Philippe, dans ses discours de politique générale, vous l'avez plutôt penché, vu pencher plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt ne pas pencher, rester droit?
Il a donné des gages des deux côtés, mais c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'autrefois, on était dans un monde assez simple. Il y avait une gauche, il y avait une droite, et puis il y avait de temps en temps des transgressions. On allait chercher soit des hommes et des femmes de l'autre bord, soit des idées de l'autre bord. On est maintenant sur une espèce de grand mot central qui essaye de trouver une stabilité. Alors, il y a ce qui se passe dans les discours de politique générale au niveau gouvernemental. Il y a ce qui se passe aussi dans les équilibres internes. On verra sur le groupe parlementaire, on verra sur les municipales. Mais je dirais pas, moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas décrire La République En Marche comme un parti pour lequel votent uniquement des électeurs de droite. C'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Et je ne peux pas le décrire comme un parti constitué uniquement de gens de la droite modérée. C'est pas vrai.
Il y a quand même un gage,
y compris au gouvernement.
Il y a quand même un gage important qui a été donné à cet électorat de gauche. si tant est que ce soit vraiment une préoccupation importante à gauche, mais c'est la question de l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Alors, c'est pas très nouveau non plus, Géraldine Mulman, parce qu'il faut rappeler que ça faisait partie des engagements d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, mais là, le fait d'annoncer presque un calendrier, est-ce que c'est, on est encore dans la tactique, et est-ce que c'est une bonne tactique?
Je pense qu'ils ont beaucoup hésité, sinon ce serait sorti avant, et que là ils ont senti qu'il fallait donner un gage à gauche. Oui, je pense, c'est, alors à gauche, là, une gauche libérale, c'est vrai qu'il y a ce clivage qui ne porte pas du tout sur d'autres questions de gauche, la lutte contre les inégalités, on parle pas de cette gauche-là, on parle d'une gauche libérale qui rencontre une droite libérale là-dessus, et ce qui fait donne l'impression d'un consensus, une gauche possible, je dirais, pour le macronisme. Pour moi, c'est un peu l'équivalent, mais dans un domaine plus social, de la mesure phare. La seule qu'on citait tout le temps de gauche des deux premières années, c'était le dédoublement des classes de CP dans les zones difficiles. Il y avait pas mal de gens de gauche qui réclamaient ça depuis longtemps, mais il y avait aussi pas mal de gens de gauche qui disaient « Oui, mais il faudrait aller un peu plus loin, parce qu'en vérité, ça touche assez peu d'élèves par rapport à tous les élèves en difficulté en France. » Et d'ailleurs, au passage, une des questions que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec cette mesure? Est-ce qu'elle va s'étendre à plus de classes? On a l'impression que c'est un peu disparu. En tout cas, médiatiquement, on n'en parle plus. Je parle de son prolongement. On n'est plus sur ce terrain-là. On a changé de terrain. Et maintenant, la mesure phare qui doit montrer qu'on a une jambe gauche, c'est la PMA. Bon, la question est de savoir si ça va suffire pour un certain électorat de gauche. Et inversement, si ça ne va pas aller trop loin en excitant un électorat de droite traditionnel, comme a excité, comme le mariage gay a excité une droite traditionnelle qu'on a d'ailleurs redécouverte à ce moment-là, sous le quinquennat de François Hollande. Je pense qu'on va voir ce qui va se passer, jusqu'où ils vont tenir et assumer, regretter, je n'en sais rien.
Laurent Bégorgne et Sylvain Bourmeau.
Moi, ma conviction profonde, ensuite on est là pour exprimer des opinions, hein, mais c'est que les 8,5% du premier tour des européennes, c'est effectivement la droite traditionnelle. Et qu'en réalité, la PMA, c'est moins un gage à la gauche qu'une façon de continuer à fracturer la droite. Parce qu'en réalité, on va demander aux gens de la droite modérée de se positionner, comme on est en train de le faire au Sénat. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le discours de politique générale d'hier au Sénat. Mais d'une certaine façon, c'est un piège pour la droite davantage que pour la gauche. C'est-à-dire que l'électeur modéré, libéral de droite, il va devoir savoir s'il prend une attitude moderniste sur cette question ou traditionnelle. L'électeur traditionnel, il va rester là où il est, cantonnant la droite traditionnelle, parce que je ne pense pas qu'En Marche vise ou gorgne les 8,5% qui ont voté pour Bégami. Ça, c'est le socle. Ces gens-là n'iront pas vers En Marche. Sauf dans des cas extrêmes.
Non, mais le sujet, vous avez bien compris aussi, c'est que va dire le Rassemblement national de cette mesure.
Mais c'est pour ça que je pense que c'est un piège à droite et extrême
donc
droite.
C'est aussi une possibilité qu'il se refasse, s'il a besoin de se refaire, parce qu'il est déjà très haut, le Rassemblement national, autour de. Qui touche un nouvel électorat, on pourrait dire les choses comme cela, grâce à l'opposition à la PMA.
Mais est-ce qu'il n'y a que de la tactique politique, ou est-ce que cette mesure-là ne s'impose pas aussi, tout simplement, politiquement, Sylvain Bourmont? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, par exemple, c'est une réforme qui vous paraît être essentielle aujourd'hui?
La PMA ?
La PMA pour toutes.
Oui, ça me semble être, pour un progressiste, ça me semble être le sens de l'histoire, si j'ose utiliser des mots comme ça, comme l'était le mariage pour tous. Donc, voilà. Mais vous savez, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a mis en œuvre avec Simone Veil l'IVG. C'est la droite qui, dans les années 60, avait autorisé la contraception. C'est pas toujours la gauche qui a mené ces réformes. C'est des évolutions plus profondes de la société française et qui sont parfois portées par des partis de droite centriste. Donc, il faut revoir les choses en perspective. Mais pour rester sur cet équilibre, je dirais que, à mon sens, on perd quelque chose si on ne voit pas la dynamique. Je veux dire par là que Emmanuel Macron a pris son élan à gauche, mais il atterrit à droite. Donc, il a commencé par faire des dégâts.
Ce qui, du point de vue de la physique, paraît assez logique.
Oui, mais il a pris son élan à gauche et il a fait beaucoup de dégâts à gauche. Il a fracturé le camp en prenant un appel sur ce côté-là de l'échiquier politique. Ça a fait trembler beaucoup de choses. Ça a détruit en grande partie le Parti Socialiste, etc. Et tout le monde continue à le regarder. Il y a une sorte d'inertie, une mémoire rétinienne de cette image de Macron qui prend l'élan à gauche. Et on ne voit pas que très vite, il a basculé à droite. Et là, il est en train de retomber à droite. Et on le voit avec ces élections en particulier, mais on le verra encore plus tard. Et il fait des dégâts à droite. C'est-à-dire qu'au fond, je dirais qu'il y a un décalage dans les calendriers. La gauche, elle est complètement atomisée, mais elle est déjà en phase de réflexion sur comment se reconstruire. La droite, elle est encore dans le moment de l'atomisation. Le travail n'est pas terminé. Et il va utiliser effectivement la PMA pour continuer le travail, pour continuer à la fracturer. Donc ça, je pense que c'est très important de mesurer cette trajectoire politique d'Emmanuel Macron, parce que c'est en regardant cette trajectoire qu'on peut peut-être essayer, l'exercice est difficile, de savoir ce qui peut bien se produire dans cet univers politique quand même, pour le moins singulier par rapport à ce qu'on a connu.
Laurent Bigorne, c'est là que s'arrête notre science, hein, si tant est que c'est de la science, parce qu'on a tous en tête ce que fut le désastre pour la gauche de 93, ce que fut la présidentielle amortie pour la gauche en 95, et puis son ressac de 97.
C'est pas grand-chose par rapport à ce qui s'est passé quand même, non ?
Mais c'est là que je dis qu'on a en tête cet épisode-là, et en réalité il n'est pas applicable. La gauche de 93, à son étiage, elle est à 20%. La gauche du gouvernement, j'entends. La gauche, aujourd'hui, son étiage serait incapable de le définir. Je ne sais pas si c'est M. Hamon, je ne sais pas si c'est réellement M. Glucksmann. Et tout ça fait quelques points. Et donc, il faut qu'on s'habitue à ce que le monde a changé. Et que, en réalité, les curseurs sont aujourd'hui profondément déplacés. Je ne suis pas d'accord avec Sylvain sur le fait de dire que c'est Macron lui seul. Le système était venu à bout de lui-même pour quantité de raisons. On a eu un quinquennat horrible avec Sarkozy, un quinquennat horrible avec Hollande. En tout cas, les Français sont sortis essorés.
Ah non, mais il a profité clairement d'une situation.
Et donc, il y a une situation qui était arrivée à maturité. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Il faudrait être vraiment obtus pour ne pas le reconnaître. Maintenant, quelle est la capacité, encore une fois, de stabilisation ou pas d'En Marche ? Ou est-ce qu'En Marche va rester, comme une bague japonaise, un objet qui va aller un coup à gauche, un coup à droite au gré du vent ? Ou est-ce qu'au contraire, Macron va prouver qu'il a une vision pour la société française? C'est là-dessus, moi, que je l'attends. C'est là-dessus. Et paradoxalement, d'une certaine façon, on ne se verra peut-être pas en septembre, puisque vous serez plus là, mais...
je serai encore là. Je serai encore vivant, je l'espère.
Mais bien sûr,
et plus
ça, on souhaite
heure.
Tous. Mais
plus à la même heure. Je dis ça pour mes parents qui ne sont pas encore au courant.
D'une certaine façon, ce qui sera intéressant, c'est de mesurer si ou pas le projet de loi de finances de l'automne va traduire quelque chose. Parce que la vision politique dont on est en train de dire, là, c'est beaucoup de communication, et c'est vrai, ça sert à ça, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte. Le projet de loi de finances, il dit des choses vraies. Parce que le projet de loi de finances, c'est blanc ou c'est noir. Et à la fin du jour, c'est des chiffres. Et moi, j'attends beaucoup plus, d'une certaine façon, du projet de loi de finances sur le cap que sur le discours du politique général.
Parce que sur ce discours, finalement, vous n'avez rien vu de très nouveau par rapport à ce qui avait été proposé ou promis il y a 2 ans pendant la présidentielle, Géraldine Neumann.
Il y a peut-être juste sur les impôts, là, les baisses d'impôts qui ont été proposées.
C'est quoi ça? C'est la réponse aux gilets jaunes?
Oui, et alors moi, mon analyse, mais voilà, c'est mon opinion, c'est que je crois que la manière de réfléchir de ce pouvoir était plutôt la restriction budgétaire, une grande rigueur, et donc plutôt on baisse les dépenses, on garde les impôts parce qu'on a une dette. Enfin, vous savez bien tout ça. Bon, pas l'austérité, mais quand même. Faire très attention à cela, et je pense qu'ils se sont aperçus que en lâchant pas mal de choses aux gilets jaunes, il y a quand même eu ça s'est compté en milliards. J'ai lu quelques papiers là-dessus. En fait, économiquement, on s'est rendu compte que c'était pas si mauvais que ça de soutenir un petit peu le pouvoir d'achat. Il y a pas mal d'économistes qui ont dit ça peut paraître surprenant. On pensait que c'était terrible, et en définitive, ça a soutenu la consommation de ces derniers mois. C'était pas si mal. Et je pense que ce gouvernement est assez pragmatiste. Idéologiquement, c'était pas son truc. De lâcher du pouvoir d'achat, et qui s'est rendu compte que ce n'était pas forcément catastrophique, et puis ça permet de faire un peu amende honorable et de montrer qu'on est concerné par ces sujets. Donc je pense que peut-être là, il y a un certain relâchement. Cela dit, le prix à payer va quand même être une grande rigueur dans la gestion des comptes publics, voire des économies. Et là, pour moi, je suis d'accord avec la loi de finances, mais les grands enjeux, ça va être l'hôpital, parce que moi, j'entends bien qu'il faut... c'est du qualitatif, mais enfin, il y a aussi un problème quantitatif, tout le monde est d'accord. Il y a un problème, quoi. Il va falloir lâcher... Il y a déjà de l'argent qui a été lâché, nous rappelle Madame Buzyn, mais il va y avoir vraiment des priorités à montrer là. Alors, comme on a en plus lâché des baisses d'impôts, je ne suis pas du tout certaine que le pouvoir va être en mesure de faire un acte très fort dans le domaine de la santé. Puis après, il y a un autre sujet qui est tout à la fois quantitatif, qualitatif, qui est la réforme de la fonction publique, où là, il y a quand même quelque chose qui apparaît clairement, je pense que ce sera un des sujets des prochains mois, c'est qu'on lutte contre les contrats courts dans le domaine privé, et puis on va installer les contrats courts au cœur de la puissance publique de manière beaucoup plus fréquente. C'est cet assouplissement qui est souhaité. Indépendamment de ce qu'on en pense, il y a quand même un deux poids, deux mesures là qui est intéressant. Et je crois simplement que les Français ne sont pas du tout mobilisés sur la fonction publique. Ils n'ont pas forcément raison. Il y a des vrais sujets. Qu'est-ce que c'est que l'État ? Je pense que c'est un sujet important, de clivage aussi gauche-droite. Il est possible qu'il passe tranquillement parce que ça n'intéresse personne. C'est possible, mais ce n'est pas certain parce qu'il y a aussi des syndicats qui sont très remontés.
Sylvain Bourbon.
Il y a sans doute là une occasion très forte, tant sur la question de la réforme de la fonction publique que sur l'hôpital, par exemple, et de manière plus générale les services publics, de réactiver quelque chose qui n'a pas disparu, qui est ce clivage gauche-droite. Je crois vraiment que là, ça va être l'un des enjeux des mois qui viennent. On sait que l'un des déterminants sociaux du vote les plus forts, c'était l'appartenance au pôle public ou au pôle privé. C'est l'un des enseignements majeurs de la sociologie électorale depuis longtemps. Ça reste assez vrai aujourd'hui. Donc, il faut voir comment les choses s'organisent. La deuxième chose qui va, à mon sens, contraindre à faire atterrir, en quelque sorte, ce projet d'Emmanuel Macron, qui est peut-être encore un peu dans l'air après cet élan pris à gauche, mais atterrir vraiment, c'est les élections municipales, parce que là, on va avoir des élections qui ne sont pas du tout de même nature que celles qu'on a connues. La présidentielle, elle a été hackée en quelque sorte, et c'est possible de la hacker parce que c'est l'élection d'un homme et que les médias jouent un rôle important et que la situation politique était telle que Emmanuel Macron a pu faire cette OPA assez incroyable, à laquelle beaucoup ne croyions pas jusqu'à très peu de temps avant son élection. Les européennes, c'est une élection, je dirais, hors sol, et avec le système, le scrutin proportionnel, etc., où chacun fait ce qu'il veut et se fait plaisir, il y a rien, on a vu le nombre de listes, chacun se fait. Bon, voilà. Les municipales, c'est autre chose. Je veux dire que ça s'appuie sur une réalité politique locale. Et l'un des enseignements dont on n'a pas parlé encore, c'est que depuis qu'il est élu, depuis 2 ans, le président de la République n'a pas réussi à transformer l'entreprise électorale qui est la République en marche, qui l'a portée au pouvoir, en un véritable parti politique, en une organisation capable de véritablement se structurer localement. Et donc, on va voir comment les listes
d'où ces appels aux maires, justement.
Absolument. Et donc là, c'est vraiment l'enjeu extrêmement important. C'est-à-dire qu'on y verra plus clair, je pense, dans cette restructuration. Je ne suis pas du tout convaincu par la thèse de Laurent Guilhang d'un changement de monde. Je crois que l'ancien monde politique est encore là dans les représentations des gens et que les municipales vont être l'occasion de le rappeler et de le rappeler très concrètement pour des gens à propos de visages qu'ils connaissent et qui sont ancrés politiquement pour eux d'un côté ou de l'autre et à propos de réalités aussi politiques locales qui les concernent directement.
Attendant les municipales, Laurent Bigorne, pour tirer des conclusions un peu plus définitives sur cette recomposition.
Sur des conclusions définitives, franchement, elles seront tirées par la génération qui me suivra.
Les conclusions définitives sont toujours provisoires, ça on le sait. Mais...
Voilà, merci de le rappeler. cette introduction méthodologique est en fait, rappelons peut-être quand même deux vérités. J'étais à Marseille cette semaine, 7,9, c'est le score de LR. À Marseille, au premier tour des européennes. Et je pense que sur le PS, si j'ai bien lu ma carte électorale, à Paris, on est à 8. Donc oui, bien sûr qu'il y a des figures, d'ancrage, mais il y a des réalités très ancrées aussi.
À
maintenant.
Mon avis, Anne Hidalgo fera plus que 8, vous voyez.
Oui, je lui souhaite. Je lui souhaite de pouvoir défendre sa candidature dans de bonnes conditions. La vie démocratique, c'est ça. Mais la réalité, c'est que quand même aujourd'hui, y compris pour des maires qui sont positionnés aux européennes et qui ont fait campagne, pour se tester aussi, hein. Il faut quand même reconnaître que 8 et 8 dans deux des grandes villes françaises, ça ne sera pas la matrice des municipales, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quand même une vraie rupture par rapport à des situations qu'on a connues. Enfin, ça ne ressemble absolument plus aux étiages. Autrefois, quand on était à 20%, on avait pris une trempe et une raclée. Bah, aujourd'hui, il faut dire qu'on a percé ce
justement,
plancher.
Les grandes villes, à mon avis, ne sont pas le meilleur lieu d'observation
regarder, bien
pour
sûr,
ça.
Mais il faut les regarder quand même. Il y a une réalité sociologique dans ce que je dis là. J'aimerais revenir un instant sur ce que vous avez dit sur la fonction publique. D'abord, pour dire que je ne crois pas du tout que ça va bouger. Je ne crois pas que ça va bouger parce qu'on n'a pas supprimé les 120 000 emplois.
Ça va bouger, vous voulez dire, du côté des fonctionnaires.
On n'a pas supprimé les 120 000 postes que le président avait annoncé qu'on supprimerait.
Hein, donc cet argument-là, il ne mobilise pas. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de baisse globale de la dépense publique. Il y a ponctuellement des endroits où on a baissé, par exemple, la politique du logement et la politique de l'emploi, mais on a mis énormément d'argent sur la table. Je prends un exemple qu'on oublie toujours de rappeler parce qu'il est en déploiement, mais le plan d'investissement dans les compétences, c'est 15 milliards. Et c'est de l'argent public. Donc il faut voir à quel point on a remis des masses d'argent public, et je ne le dis pas pour m'en féliciter, hein, je ne fais vraiment pas un article sur cette partie-là du quinquennat. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on nous avait dit que ce sera la guerre, par exemple, dans l'éducation. Ben, il vient d'y avoir une commission mixte paritaire Assemblée-Sénat sur le projet de loi. Elle a acté à sa première réunion de travail que le truc continuait. Les syndicats n'ont pas de prise sur ce qui se passe.
Elle est quand même contestée, cette loi sur la confiance de Jean-Michel Blanquer.
Mais le Sénat,
dans de nombreux établissements.
On nous disait au Sénat, bastion de droite, ça va cogner dur. Le Sénat a fini par dire, très bien, on a pu discuter, on avance. Et on nous dit, ça va être la guerre au moment du bac, ce que je trouve être un argument par ailleurs détestable, parce que le bac c'est un truc sérieux, et je ne vois pas comment on en fait un objet syndical, mais on ne sent pas à ce stade une mobilisation qui dépasserait les appareils réduits à leur plus simple expression. C'est-à-dire que je constate aujourd'hui, y compris parce qu'il y a un ministre qui a correctement travaillé sur la réforme de la fonction publique, que ça n'est pas le tremblement qu'on nous décrit. Ça n'est pas ça, et je m'interroge à la fois sur l'affaissement des partis de gouvernement, mais il faut bien reconnaître que du côté du fait syndical, il y a un affaissement qui est, de mon point de vue, assez similaire. Et je ne le dis pas pour m'en féliciter.
Oui, mais c'est un affaissement qui n'a pas non plus conduit à une atonie du monde social. Quand on voit la durée de ce mouvement des Gilets jaunes qui a été quand
même... Mais qui n'a rien à voir avec le fait syndical.
Non, certes, mais c'est quand même un mouvement, social. C'est quand même de la contestation. Après, elle passe par d'autres voies.
Il y a Gilets jaunes sans doute aussi parce qu'il n'y a plus de syndicalisme, de contestation ou qu'il n'arrive plus à avoir d'emprise sur les faits.
Jardine Mulman.
Non, c'est possible que ça ne prenne pas le mouvement social à propos de la fonction publique. Mais ça, c'est pas forcément un signe que c'est une bonne réforme, ni. Enfin, vous voyez, on peut pas fonctionner non, que
et,
comme
et
ça.
Et je me suis là, bien gardé de la qualifier de bonne ou de mauvaise. Hein.
Donc, je l'ai dit moi-même. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des raisons de réfléchir à ce qu'on va faire. Évidemment, j'attends de voir aussi le détail. Je pense aussi que, par exemple, ce qui s'est passé dans l'affaire Benalla, des gens qui ont le sens de l'État, il y en a encore en France. Hein. Il y a beaucoup de gens qui détestent les fonctionnaires, ça je savais, mais il y a encore des gens qui réfléchissent à ce que c'est que l'État, la puissance publique. Et c'est vrai qu'une des questions qui a été posée, c'est comment se fait-il que pour s'entourer, le président ne fasse pas appel, alors soit à l'armée, soit à la police. Les présidents historiques ont choisi l'un ou l'autre. Il est sorti, il a fait appel à quelqu'un du privé, avec des contrats spéciaux qui est... été mis officier de réserve quand même très très jeune. On voit bien que ça a été fait pour qu'il puisse avoir cette fonction. Et au fond, il y a des gens qui ont le sens de l'État, des fonctionnaires, pas forcément hauts fonctionnaires, mais aussi des hauts fonctionnaires qui s'interrogent sur le rapport de ce pouvoir à l'État, à la chose étatique publique, c'est-à-dire, pour reprendre un des concepts forts autour de la notion de puissance publique, l'impartialité, le fait que c'est un endroit qui est géré par des gens qui n'ont aucun intérêt privé, qui lorsqu'ils travaillent sur un domaine, dans leur fonction, n'ont pas d'intérêt, n'ont pas de conflit d'intérêt, ne viennent pas de ce domaine-là, puisque c'est pour ça que les fonctionnaires sont nommés à vie, n'ont d'ailleurs pas souvent les salaires du domaine sur lequel ils interviennent.
Et ces principes-là, vous les voyez fragilisés.
Je sais qu'il y a des gens qui s'interroge autour de cela et je pense que ça n'a pas bonne presse. Vous avez parfaitement raison, Laurent Bigorne. C'est pas du tout un sujet très fort en ce moment. Mais je pense que c'est malgré tout une question autour de ce qu'on veut comme État, comme personnel.
Jusqu'y compris au cœur de la haute fonction publique.
Oui. Comment ?
Ces interrogations, on les retrouve jusqu'y compris au cœur de la haute fonction publique.
Il y a quelques lieux quand même qui se posent ces questions, d'endroits où on se pose ces questions. Je pense que ce sont des questions importantes. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas réformer l'État. Alors là, vraiment, ce n'est pas moi qui vais dire ça. Ça fait longtemps que je pense que c'est une des réformes les plus importantes. Mais est-ce que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller ?
Laurent Bigorne, vous vouliez réagir et ce sera la conclusion.
J'ai envie de dire sur la haute fonction publique qu'il y a un peu de corporatisme aussi au moment où on explique qu'on va supprimer l'ENA et revoir la totalité de la mécanique des grands corps. Donc c'est pas pour déflatter ce que vous dites, on pourra avoir une belle émission sur ce sujet, mais il y a aussi pas mal de corporatisme autour d'un sujet qui agite beaucoup et sans doute de façon un peu hypertrophiée.
Eh bien merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Laurent Bigorgne, Géraldine Mulman et Sylvain Bourmeau. Cette discussion, vous pouvez la retrouver comme chaque semaine sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre pour écouter, pour télécharger et également pour nous écrire. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Bulster, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre et Legras avec à la prise de son Laurent Bender, Julien Douminc et Bastien Varigaud. Arnaud Laporte, la dispute, ce sera dans 3 minutes. Non, 4 minutes, car je vous laisse un peu de temps pour nous demander ce que nous faisons demain, Sylvain et moi. Voilà. Bah, allez-y, posez la question.
Ben, vous faites les questions.
Mais non, répondez maintenant. Ne vous vexez
Sylvain,
pas comme ça.
Demain.
Demain, on parlera des Antilles, des mouvements sociaux des années 2008-2009, proto-gilets jaunes.
Et à quelle heure, rappelons-le?
À 12h45.
Bah voilà, d'habitude. Et avant cela, à midi, avec Gardette.
Dans Politique, Mélenchon, l'esprit de contradiction. Ce sera une discussion en compagnie de deux journalistes qui ont travaillé justement autour du leader de la France Insoumise.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je pourrais demander à Mathilde Serrel son billet de lundi matin, mais c'est un peu tôt.
Peut-être Frida Kahlo.
Vous voyez, on a des infos extrêmement en avance. Il faut crier un petit peu. Pour l'instant, on va retourner vers un studio, un peu plus haut dans cette maison de la radio, pour retrouver Mathieu Laurent et les titres de l'actualité.